À 5h17, c'est parti pour notre pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. Et on commence comme chaque matin par la une de vos journaux et le Paris-Nice ressuscité à la une, évidemment, de Nice Matin, qui salue bien sûr le retour du train de nuit après 3 ans de fermeture. Le journal passe la nuit comme Europe 1 à bord des couchettes, où se trouve aussi, vous l'avez entendu, le Premier ministre Jean Castex. Au volet sanitaire, le courrier Picard se réjouit de la nouvelle avancée du calendrier vaccinal. Vaccination pour tous les adultes dès le 31 mai, soit 2 semaines avant la date prévue. Et les jeunes se ruent sur ces vaccins, titre aujourd'hui en France. Les moins de 40 ans n'ont pas attendu cette annonce pour se précipiter dans les centres, avec la bénédiction dès le quotidien des soignants, évidemment très heureux de pouvoir écouler leur dose. Alors que West France pose la question qui vous taraude peut-être en terrasse, est-ce qu'on se contamine à l'extérieur? Plusieurs experts donnent leur avis, en principe le risque est faible, mais attention, répète-t-il, aux attroupements. Il y a urgence aux frontières, ça c'est l'édito du Figaro qui s'inquiète des arrivées de migrants ces derniers jours sur les côtes italiennes et espagnoles. L'Union européenne tarde à muscler son dispositif et à réformer son système d'asile, tacle la plume Philippe Gély. Quand le journal de Saône-et-Loire lui prend un petit peu de hauteur, une leçon avec Thomas Pesquet pour une 60aine d'écoliers de 2 communes du département qui ont pu échanger en direct avec lui depuis la Station Spatiale Internationale. Enfin, après le gel qui a frappé les vignes il y a quelques semaines, les cultures prennent l'eau à la une de l'Alsace. Trop de pluie ces derniers jours, le maïs manque de soleil, les asperges de chaleur, les fraises arrivent avec 15 jours de retard. Bref, vivement que le vrai printemps arrive. Les 3 histoires qui attirent notre attention ce matin. Omblin Roche, on commence avec vous.
Alors comment vous vous êtes peut-être dit quand vous avez vu la bande-annonce de la nouvelle série Netflix avec Ewan McGregor, c'est qui ce Alston? Eh bien le Figaro vous le présente ce matin.
Je suis un visionnaire. Je vais changer la face de la mode américaine.
Voilà, la série rentre dans le cahier des charges du biopic, un génie autodidacte, gloire et chute. En somme, un destin fabuleux et tragique à la fois. C'est donc l'histoire d'un petit gars de l'Indiana qui débarque à New York dans les années 50. Il se crée un personnage à l'accent snob, en costume de playboy, avec col roulé et lunettes fumées.
Ce qu'il faut, c'est déterminer ta signature. Le truc qui permettra, quand on voit une femme superbe, de dire... Ça, c'est du Alston.
Alors, avant de dire ça, c'est du Alston, ouais. Il est chapelier. L'une de ses créations va coiffer Jackie Kennedy lors de l'investiture de son mari, John Fitzgerald Kennedy. Les images font le tour de la planète. Hein. C'est ainsi que tout commence finalement. Et c'est en novembre 1973 qu'Alston connaît la consécration à Versailles lors d'un défilé pour récolter des fonds et qui a tous les airs d'affrontement entre la France et les États-Unis. Des stylistes new-yorkais face aux plus grands couturiers hexagonaux, Dior, Givenchy, Cardin. À la fin des années 70, Alston devient le pilier, l'icône du Studio 54 à New York, hein, la plus célèbre discothèque du monde, l'inventeur du carré VIP. le temple du disco, évidemment, la devise, c'est paillettes, sexe et drogue. La descente aux enfers s'amorce au début des années 80 jusqu'à son décès en 90. Victime du sida, Alston va ensuite tomber petit à petit dans l'oubli. Alors, il a quand même construit un empire aux États-Unis, habillé les plus grandes stars, Lorraine Bacall, Elizabeth Taylor, Liza Minnelli, qui était sa plus grande amie, Tom Ford, le directeur artistique de Gucci dans les années 90, l'a élevé au rang de modèle et Netflix donc le réhabilite. Qui est Alston, ce couturier remis à la mode? C'est à lire dans le Figaro.
Merci Omblin Roche. Je vous emmène moi dans les pas d'Arlette ce matin. Arlette a 76 ans, elle habite dans les Yvelines et c'est une pionnière, nous explique le Parisien. Elle fait partie des premiers patients de France à tester le cannabis médical. Elle en rirait presque, elle qui de toute sa vie n'a jamais touché à ça, comme elle dit, mais elle veut y croire au vu des expériences déjà menées à l'étranger pour tenter de soulager les douleurs chroniques qui la traversent depuis 26 ans maintenant. Une opération banale pour une hernie discale, sauf que le chirurgien sectionne l'artère qui alimente les membres inférieurs et bousille ma vie, résume Arlette. C'est la neurologue qui la suit à l'hôpital Ambroise Paré en région parisienne qui l'a inclus dans le protocole du cannabis thérapeutique. La France a longtemps été réfractaire, contrairement à d'autres pays, mais ça y est, les chercheurs ont pu lancer une expérimentation depuis la fin mars et commencer à sélectionner 3000 malades. Arlette a dû pour ça remplir un long questionnaire, détailler tous les médicaments qu'elle prend, 26, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaise fameuse combinaison d'incompatibilité avec le cannabis. L'occasion de poser des questions aussi au professeur qui la reçoit. Est-ce qu'il y a un risque de dépendance? Très peu. On est d'accord qu'il n'y a rien à fumer? Non, ce sont des gouttes d'huile sur la langue. Fumer serait sans doute plus efficace, mais avec un trop grand risque de développer une addiction. En cas de contrôle par la police, le médecin rédige cette bonne une attestation. Arlette repart de l'hôpital avec un protocole précis des doses d'huile de cannabis, donc pour un premier traitement de 28 jours. Elle ne s'attend pas à un miracle, les soignants l'ont prévenu, c'est une expérimentation. Mais on sait, disent les médecins, qu'il y a un effet ultra soulageant chez certains malades. Au mieux, mon état s'améliorera un petit peu, sourit Arlette, philosophe. Chaque mieux, conclut-elle, est déjà une victoire. Les premiers patients testent du cannabis thérapeutique et donc Arlette, 76 ans, c'est-à-dire dans le Parisien ce matin. Martin Lange, on termine avec vous.
Oui, ce matin, je vous présente un jeune rappeur, Théo. Il s'appelle MC Abdoul, il est palestinien, il a 12 ans et il fait le buzz depuis quelques jours avec cette reprise d'Eminem. Alors que depuis une dizaine de jours, Israël et le Hamas s'échangent des tirs de roquettes et qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur cette nuit, vous en parliez dans le journal de 5h, Théo. Abdelrahman Al-Shanti, c'est son nom complet, alerte sur le sort de ses familles de Gaza. Imaginez que vous êtes expulsé de la maison où vous vivez depuis toujours, chante-t-il. Je regarde ma petite sœur et je me demande si elle mérite tout ça. Ma seule mission est d'alerter le monde, car vous seul pouvez changer les choses. Une vidéo vue plus de 4 millions de fois sur Instagram, d'où ce portrait que lui dresse le site Combini.
Et on découvre, Martin, que MC Abdoul n'en est pas à son coup d'essai.
Non, malgré son jeune âge, Abdel est déjà une vraie star en Palestine où il s'est fait connaître grâce à ses freestyles engagés, comme cette vidéo publiée l'été dernier, c'était déjà sur Instagram. Nous voulons la paix et l'amour, un message qui lui a d'ailleurs valu une polémique à Gaza, où l'idée même d'une coexistence pacifique avec Israël ne fait pas vraiment l'unanimité. Cette histoire a attiré l'attention du New York Times, qui a lui aussi publié un portrait du jeune homme. On y apprend qu'Abdel est scolarisé dans une école de l'ONU, qu'il a appris l'anglais tout seul en écoutant Eminem sur Internet. Fasciné par la culture US, il est aussi fan de skate et de NBA. Il rêve de faire carrière de l'autre côté de l'Atlantique, mais à court terme, on imagine qu'il rêve surtout que la trêve dure le plus longtemps possible avec Israël. Un enfant palestinien appelle à la paix en reprenant un classique d'Eminem, c'est à lire sur le site de Combini.
Merci Martin Lange, merci Omblin pour ce pressing. À tout à l'heure.